Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Bangalter et de Christophe Bouillot de Audio People. Thomas, après avoir discuté sur le phénomène de starification de votre groupe, nous allons être beaucoup plus terre à terre dans cette deuxième partie puisque nous allons aborder le côté technique de votre travail. Toujours dans les critiques, on dit qu'en ce début de troisième millénaire, il y a deux albums qui prédominent. C'est Discovery de Daft Punk et le Kid A de Radiohead. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de ceci ?
À l'écoute de quoi ?
Justement, de savoir que vous êtes un des albums qui prédomine en ce début du troisième millénaire.
On est très flatté, mais bon, on n'en prend pas vraiment les critiques avec beaucoup d'importance. Après, c'est un peu, encore une fois, à chaque fois on trouve que c'est un peu exagéré parce qu'il y a beaucoup de...
Alors, ils prédominent pourquoi ? Pour leur inventivité, leur science et leur précision.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué le regard qu'on peut avoir sur Discovery. C'est de loin le disque qui a nécessité le plus de travail, le plus de temps et le plus de précision qu'on ait pu faire à un moment où la musique était dans un état aussi différent, où on a pu faire une œuvre audiovisuelle, l'attacher avec un dessin animé, de faire tous les morceaux en clip, enfin, dépenser énormément d'argent aussi autour de ça. Et c'est un peu notre Cléopâtre Discovery dans cette idée-là au niveau du disque. Je pense pas qu'on sera de nouveau dans le même état d'esprit ou dans la même volonté de passer autant de mettre autant de temps et autant d'énergie dans un seul projet, en fait, qui nous a pris à l'époque presque 4 ans non-stop. Donc après, le vrai compliment qu'on peut nous donner sur le travail, c'est que à une époque, justement, on est dans une société où les choses changent très très vite et on écoute un morceau une minute, on passe au suivant, etc., que la musique puisse ou que les projets artistiques puissent rester et perdurer, c'est quelque chose qui est pour nous effectivement une idée qui nous fait plaisir, parce que on peut se dire voilà, on n'a pas travaillé 4 ans pour quelque chose qui aurait pu avoir énormément de succès et être important pendant 2 mois pour la planète entière, plus que de durer peut-être au moins 4 ans aussi pour les gens.
Qu'est-ce qui dit qu'un groupe ne peut exister, n'est véritablement scellé, n'arrive à la starification que s'il dure plus de 30 ans
Peut-être, oui. Ouais, non, effectivement, je pense que on est extrêmement surpris de la longévité de l'exposition qu'on peut avoir, spécialement dans le monde musical et dans lequel on se situe, qui est beaucoup lié au phénomène de mode et au changement et à des choses et à la nouveauté. Et c'est vrai que d'avoir l'opportunité et la chance de pouvoir continuer et de faire ce qu'on fait depuis, ça va faire 10, 17 ans, 18 ans maintenant, on n'avait pas du tout prévu. Et c'est une vraie très, très bonne surprise qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer non plus.
Alors on va parler technique avec Christophe Bouillot, qui a certainement beaucoup de questions à vous poser. Christophe.
Pour revenir sur ce que disait Thomas juste avant, peut-être que justement le phénomène Daft Punk dure parce que vous avez une légitimité que vous avez acquise autrement que par du marketing ou par du matraquage publicitaire. Certes, tu nous disais ça fait 18 ans que vous traînez dans un style musical, mais je ne sais pas en quelle année était sorti le premier disque.
Le premier disque est sorti en 94, donc ça va faire 16 ans.
On pensait 2-3 ans avant, vous avez tourné peut-être à faire des... Tu nous parlais de rave ou des trucs comme ça, peut-être que vous avez fait pas mal de soirées,
Non, on a écouté... je sais pas. Mais bon, on a été, pour revenir aux critiques, dès la sortie de notre premier album, il y a 12, ça va faire 13 ans, on a tout de suite été blacklisté comme voilà la mort de la techno underground qui signe avec le diable les maisons les majors etc et pour ensuite que les idées changent et que on se dise ah voilà le premier album c'était le vrai
l'acte fondateur
de la techno de la French Touch etc donc mais ça pourrait être une des raisons, mais je sais pas laquelle en fait. Peut-être il y a cette idée d'essayer de se renouveler et d'avoir des nouvelles idées et de se surprendre et donc de surprendre le public aussi et sans une volonté d'une exposition permanente non plus ou effectivement de
je pense que l'anonymat y a joué pour beaucoup
l'anonymat aussi. Et puis le fait de
disparaître entre les projets.
On est relativement voilà on prend le temps de faire les choses et on est relativement économe dans nos apparitions et c'est vrai que les gens se retrouvent finalement à l'interaction avec le public elle se fait de façon peut-être plus intéressante parce qu'ils sont peut-être moins sollicités aussi et quand on est moins sollicité on a envie d'aller voir les choses un peu plus Et aussi, des fois, quand on parle moins, il y a ça des fois dans les familles aussi, celui qui parle moins, mais quand il parle, tout le monde l'écoute.
Ouais, faut savoir rester donc, à sa place des fois et l'ouvrir quand il faut.
Même d'un point de vue créatif. Hein, donc voilà, il ne s'agissait pas que...
Bien sûr, bien sûr. Alors, pour parler un peu technique, il y a quelques mois, on s'était croisés dans un studio parisien.
Ouais.
Et je venais dans ce studio pour déposer du matériel. Et j'avais été très étonné de vous trouver là. Parce que quand on pense à Daft Punk, on pense musique électronique, comme tu disais tout à l'heure, musique sur ordinateur, des synthés, des claviers, ce genre de choses. Et je ne m'attendais pas à vous trouver dans ce studio, qui est un beau studio, équipé avec beaucoup de matériel vintage, des magnétos à bandes, enfin voilà, pas mal de matériel vintage. Et sans parler forcément du projet sur lequel vous travaillez, ce que peu importe, est-ce que vous attachez quand même une grosse importance au travail en studio, à la technique, ou vraiment tu penses qu'un album pourrait être fait entièrement à la maison, sur un ordinateur, et ensuite commercialisé tel quel, sans passer par un studio, par une console, par des périphériques et ce genre de choses?
Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Maintenant, on ne fait pas les mêmes dessins avec du fusain ou avec des aquarelles ou de la même façon qu'il n'y a pas de règle, ce serait une erreur de penser que l'ordinateur remplace les périphériques vintage ou des choses comme ça, mais ou peut remplacer de façon équivalente. Maintenant, je pense totalement effectivement qu'on peut faire de la musique aujourd'hui encore plus qu'avant juste avec un ordinateur à la maison. Ce sera pas la même musique que celle qu'on peut faire en studio aussi. Et après, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vrai que l'acoustique et le son, c'est vraiment à la fois beaucoup de perceptions subjectives, et donc tout le monde peut réagir différemment. Et en même temps, il y a des choses que certaines vieilles machines ou certains vieux micros... dans leur caractère unique peuvent capter et cette captation elle reste intéressante et unique et stimulante d'un point de vue créatif donc c'est la même chose encore une fois on n'est pas dans un discours on dit voilà la musique à la maison ou les ordinateurs c'est maintenant on peut faire comme ça et c'est comme ça qu'on devrait faire plutôt que d'aller en studio. Après il y a effectivement des considérations économiques qui font que tout ce matériel et ces studios coûtent beaucoup plus cher et que il y a d'une certaine manière une accessibilité à la technique aujourd'hui qui est une démocratisation qui est possible. Ça a commencé avec la musique, mais il y a 10-15 ans, et ça s'est propagé à la photographie, à la vidéo, ensuite, quand il y a eu un peu plus de mémoire et des processeurs un peu plus rapides. Mais pour ce que peut faire une bonne machine ou un bon micro, rien ne l'égalera dans son excellence. Maintenant... ce ne sont que des outils en même temps, et l'émotion et l'état d'esprit, et ce qu'on a à dire et à exprimer est plus important. Et des fois, on peut le faire aussi juste avec un ordinateur ou avec un magnétophone. Il y a Bruce Springsteen qui avait enregistré Nebraska sur un 4 pistes Fostex. Après, c'était un acte délibéré, hein, et qui est sorti, et qui était un disque très important, et que je crois que c'est un des seuls disques des années 70 ou 80, enfin 70-80, enregistré sur une cassette audio. Et ça reste Bruce Springsteen, et c'est sans doute plus exaltant et plus que beaucoup de disques de chanteurs X ou Y enregistrés. Dans un super studio avec des super micros et des super amplis, etc. Donc, le travail qui nous intéresse, en tout cas en studio et avec des vieilles machines aussi, c'est le fait que, et là on peut vraiment peut-être faire une différence, c'est le rapport entre l'ère numérique dans laquelle on est aujourd'hui, où dans la numérisation, il n'y a pas de dégradation d'une certaine façon ou de déformation du signal. Et l'analogique, où d'une certaine façon, mais c'est valable aussi pour la photo, l'argentique, où d'une certaine façon, il y a dans le processus de la captation des artefacts et un processus de dégradation du signal, de texture, de bruit, qui a permis, même comme dans le développement, une alchimie d'une étape qui est assez magique, en fait, qui est différente de la réalité. Et effectivement, c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui avec les ordinateurs et la technologie numérique, où on peut être en mesure d'écouter tout de suite un résultat sans étape magique ou mystique qui permettrait la transformation de la réalité en quelque chose de sublimé. Et on le voit d'ailleurs, c'est facile quand on voit des documentaires ou des making-of sur les films, et qu'on voit un documentaire en vidéo sur le tournage d'un film, c'est souvent très plat et très pas très poétique, et ça n'a rien à voir avec l'image du film au final, et avec cette image un peu de caméscope ou d'équipe de télé comme ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup des outils qui permettent de faire de la musique chez soi sont plus du côté de cette équipe télé qui viendrait faire un reportage d'un point de vue esthétique, hein, plutôt que de la version cinémascope du film. Donc il y a des idées, des choses à faire techniquement, même sur son ordinateur, ou de simulation, ou de dégradation, ou pour arriver à retransformer la réalité et à créer quelque chose de différent avec.
Souvent, on voit sur des forums, sur Internet, des gens qui se demandent avec quelle machine vous avez fait le son de basse sur un morceau X ou Y, etc. Est-ce que vous avez comme ça une liste de matériel un petit peu secret, ou est-ce que vous communiquez là-dessus sans aucun problème, et que ça vous booste quelque part à vous dire, bon, bah, si on donne un peu les machines entre guillemets secrètes,
ça nous... On n'a pas de liste secrète, mais on n'a pas non plus de liste. En fait. Ouais. Donc c'est dans le sens où on a essayé à chaque fois de travailler avec des outils différents en même temps. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la recherche technique, et on s'adapte totalement au niveau du projet. Et je pense que le son qu'on va avoir va être beaucoup plus lié à notre perception et notre capacité de mixer ou de faire mixer ce qu'on veut et être dans l'instant. Donc effectivement, on a beaucoup, selon les époques, travaillé sur quelque chose, où on a par exemple effectivement à un moment beaucoup travaillé sur la dynamique, et où en fait au détriment peut-être du spectre du des fréquences, en se disant voilà, l'idée de ce qu'on veut exprimer à ce moment-là, elle passe par quelque chose de très précis dans la dynamique et dans la compression et tout ça, même si on n'est pas du tout, on oublie d'autres aspects d'une haute fidélité. Si on arrive à exprimer un des aspects, en fait, techniques, donc par rapport à combiner des machines entre. Après, on a travaillé autant et on travaille autant avec des instruments analogiques et des synthétiseurs analogiques que, euh, que des instruments numériques, même si de plus en plus on a travaillé de plus en plus avec des ordinateurs et avec des instruments numériques, pas dans un souci de miniaturisation, mais plus dans l'idée de se dire voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'un ordinateur peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans avec ce matériel-là. Et c'est moins un système de substitution pratique, plus que techniquement de se dire voilà, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire, ou effectivement qui prenaient tellement de temps à faire qui était à ce moment-là impossible.
Est-ce qu'il y a des constructeurs qui viennent vous voir avec des modèles d'études, ou qui viennent vous poser des questions pour concevoir de nouvelles machines ?
Pas vraiment. Ce qui est amusant finalement, c'est que on n'est plus vraiment dans l'ère de la machine. Les machines, à peu de choses près, c'est aussi il y a des raisons économiques pour ça, et de fabrication, de pays de fabrication, etc. Mais on vit dans un monde où les programmes et les ordinateurs et les logiciels ont remplacé les machines dans une grande partie, et où la plupart des bonnes machines, qui étaient un peu l'air plus industrielles que numériques, ont été déjà fabriquées, elles existent. Alors elles vieillissent, mais la civilisation a été s'est fait prendre au jeu d'un cercle vicieux de progrès, où on a dû sortir chaque année un nouvel ampli guitare, un nouveau micro, ou des nouvelles technologies, et le progrès en termes d'ergonomie ou en termes de fonctionnalité n'est pas allé de pair forcément en termes d'acoustique, mais c'est aussi des machines avec des fois des composants qui n'existent plus, parce que les machines ont toujours été faites aussi avec des composants électriques ou électroniques qui étaient utilisés dans d'autres secteur d'industrie. On ne fabriquait pas tout, et dans une grande part, ces composants sont totalement obsolètes aujourd'hui, parce qu'ils ont été remplacés par des microprocesseurs pour la plupart. Donc on peut être dans un rétrofuturisme un peu comme ça, fétichiste, de dire voilà, on va travailler qu'avec des machines anciennes, ou on va essayer de travailler avec des machines anciennes, ou on combine effectivement des fois les choses en combinant la puissance des super processeurs d'aujourd'hui avec les imperfections et le charme de certaines machines. Je donne un exemple, mais c'est un truc plus personnel au niveau de la photo. Moi, aujourd'hui, mon appareil photo, depuis plusieurs années déjà, c'est un appareil à télémètre numérique avec une optique de 1933 dessus. Voilà. Et donc, c'est un appareil numérique avec une optique des années 30, et ça fait des photos qui ne ressemblent pas à des photos numériques... et qui ne ressemble pas non plus qu'à des photos des années 30, mais il y a quelque chose d'une fusion, de combiner comme ça des appareils et des techniques différentes. Et on se dit, voilà, on peut faire des choses qu'on ne pouvait manifestement pas faire des années 30, et à la fois essayer de se distinguer et de créer quelque chose d'une personnalité dans les outils d'expression, à un moment où, d'un point de vue technique, il y a une vraie normalisation et un vrai formatage, où on peut aller à la Fnac ou chez Darty ou n'importe où, regarder tous ces appareils photo numériques les uns à côté des autres, et à part la couleur ou la forme du boîtier, en gros c'est tous les mêmes, et ça fait exactement la même chose. Après, ça le fait plus ou moins bien, mais il y a pas vraiment de personnalité du médium, de la même façon qu'il pouvait en avoir beaucoup plus dans le Super 8, par exemple. Mais même si on se dit le Super 8, il existait parce qu'on n'avait pas trouvé un autre moyen de capter ces images. Et est-ce qu'il a besoin d'exister encore aujourd'hui ? Effectivement, peut-être pas. Même si il y a peut-être plus de magie, plus de poésie et plus de mystique dans la perception d'un petit film Super 8 d'enfance, plus que d'un film en caméscope.
Donc t'es en apprentissage permanent, en fait, sur les nouveaux outils qui peuvent
ouais,
te servir.
Ouais,
sur...
ouais, ouais,
les nouveaux, les tout anciens.
Oui, les nouveaux,
les nouveaux anciens. Et les anciens, ils décident de combiner les choses. Mais à partir du moment où il y a un... Mais c'est comme dans l'idée d'un morceau, l'idée, c'est pas d'arriver avec le tout neuf, le tout nouveau. C'est à chaque fois, on s'est toujours dit, c'est même souvent plus amusant de jouer avec des clichés et de changer un élément. parce qu'on à ce moment-là, on a vraiment une référence très forte. Et si on change un paramètre et où il y a une règle qu'on casse ou qu'on ne suit pas sur un des éléments, on va le remarquer beaucoup plus. Et c'est dans la combinaison donc d'anciens outils et aussi de nouveaux. C'est comme une alchimie, c'est un nouvel ingrédient qui change toute la formule, même si elle est composée que de choses anciennes.
Est-ce que vous êtes d'accord sur la réputation que l'on donne aux Français de jeter un petit peu tout ce qui est ancien pour toujours courir au modernisme ? De jeter, par exemple, tout le matériel ancien d'un studio pour se consacrer uniquement à un numérique de dernier cri ?
Je sais pas. Je sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est une... Je pense que on ne sait pas, malheureusement, on n'a pas pu se rendre compte que, quand je parlais de l'idée que le progrès et les avancées technologiques, par exemple dans le son, dans la musique, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue du consommateur, n'ont pas été de pair avec des avancées acoustiques et en qualité, mais plutôt en termes d'ergonomie, de miniaturisation, se rendre compte qu'en fait... telle machine marchait mieux ou sonnait mieux, c'est quelque chose souvent où on s'en rend compte beaucoup trop tard. Donc le progrès est quelque chose d'assez exaltant et en même temps, même si c'est vraiment pour la peine maintenant que le fruit de la société de consommation, mais assez exaltant pour vouloir vivre des expériences différentes au long de sa vie et de se dire voilà, moi j'ai pas envie de faire des photos toute ma vie avec cet appareil, je veux essayer avec un autre. C'est souvent aujourd'hui plus des générations qui découvrent du matériel d'autres générations et donc avec un vrai intérêt, c'est que on peut redécouvrir ce que nos parents ou ce que nos grands-parents ou ce que nos arrière-grands-parents utilisaient et pour nous c'est quelque chose de nouveau. Et peut-être plus que pour eux. Donc aujourd'hui, peut-être les gens jettent moins et ils vendent sur eBay des trucs. Mais c'est vrai qu'on peut, voilà, après le progrès que peut amener Internet, moi, nous on a trouvé des outils dans cette grande brocante mondiale sur Internet qu'on n'aurait pas pu trouver du tout parce que y avait ou peu d'exemplaires ou parce que on n'aurait pas pu être en contact directement avec les gens qui les vendaient.
À quelle étape de votre processus intervient un ingé son, si tant est qu'il y en ait qui interviennent dans votre processus créatif ? J'imagine que la création, vous faites ça tous les deux. Enregistrement, quand il y a lieu, mixage, mastering, j'imagine que oui. Mais est-ce que vous faites mixer, par exemple, vos albums par un ingénieur du son ?
Y a eu des fois des ingénieurs pour des remixes. Jusqu'à maintenant, pour nos albums, le travail qu'on faisait pour les trois albums, non, on les a mixés nous-mêmes et on avait un ingénieur qui faisait le mastering. Pour le live, il y avait des ingénieurs du son, ouais. Donc, ouais, dès le live, on a fait appel à des ingénieurs du son et maintenant, en ce moment, on travaille avec des choses plus hybrides ou avec à la fois des ingénieurs et des parties de choses qu'on fait, mais on n'a jamais eu la volonté de vouloir tout faire nous-mêmes. C'est plus à des moments ce qu'on est en mesure de pouvoir faire pour un projet. Si on estime pouvoir le faire, on le fait. Et il y a des choses, effectivement, en tout cas en termes d'enregistrement, où on fait appel à des ingénieurs pour l'enregistrement.
Et vous avez quand même une formation en termes d'ingénierie du son, donc aucune. Vous n'avez pas fait formation
particulière. Non, justement, et je pense que c'est... Bon, moi, je suis beaucoup plus proche de la technique que mon acolyte, qui aurait à ce moment-là plus un travail de coproduction artistique ou de réalisation pendant le mixage des albums qu'on a pu faire. Donc c'est plus moi qui me suis retrouvé à mixer avec des décisions artistiques qu'on a toujours prises ensemble. Mais je pense vraiment que le son de nos disques, de nos albums, est la résultante directe de mon inexpérience en termes de règles d'ingénieur du son et donc d'une traduction ou d'une spontanéité et avec toutes les erreurs que ça peut entraîner pendant. D'accord. Donc, d'une certaine façon, on est dans une totale impossibilité d'aborder le travail d'un ingénieur du son de façon conventionnelle ou de pouvoir faire ce que ferait un ingénieur du son conventionnel. Mais de la même façon...
C'est ce qui fait aussi la richesse du...
C'est ce qui peut faire la richesse et aussi, d'une certaine façon, les limites ou la personnalité, en tout cas, de ce qu'on a pu faire.
Plus de questions, Christophe ?
Ça va ? Pour l'instant, ça
va. On va terminer là. Alors, je voulais dire en conclusion que l'on parle de vous, que l'on parle du groupe Daft Punk et qu'on le cite de cette manière. C'est l'intransigeance et l'attitude du punk, le goût à la fête du disco... La métronomie et mélancolie de la New Wave et la grandiloquence du soft rock.
Ça, c'est... ça peut... peut-être sur... On parle de Discovery, c'est peut-être ce qu'on peut trouver sur Discovery, mais après, nous, on a... Dans cette idée de renouvellement un peu perpétuel et de création musicale et d'avancée, on a vraiment à chaque fois la volonté... d'arriver avec des nouveaux morceaux ou un nouvel album ou un nouveau projet qui va rajouter une face presque à un diamant ou dont on n'aurait pas vu tous les côtés encore. Donc et de pas rentrer en fait dans une définition plus que de pouvoir ensuite rajouter des qualificatifs et encore une fois de j'aime bien cette idée mais de d'étendre et d'élargir le propos, aussi bien que d'élargir les préconçus, les idées préconçues aussi.
Très bien, voilà. Thomas. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci, Christophe.
Avec plaisir.
Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir.
Au revoir.
Autre radio, autre culture.